Blanche, avec ses 18 ans et son étrange légèreté qui la faisait glisser en un instant de la désolation aux espoirs insensés, Blanche, qui pouvait soudain s'arrêter de sangloter parce qu'un oiseau chantait de l'autre côté du mur et s'écriait émerveillé « Marguerite, tu entends ? Un oiseau !» Blanche, qui croyait aux signes, à tous les signes, et qui faisait des rêves sans arrêt, comme d'autres femmes font des ourlets. Blanche, peut-être, si on la sortait de cette geôle, serait capable de retrouver son teint, son regard et son cœur d'autrefois. Marguerite, jamais. Depuis le début de sa captivité, elle n'avait pas versé une seule larme, ni exprimé non plus une seule pensée de remords. Le chapelain, qui la confessait chaque semaine, était effrayé de la dureté de cette âme. Pas un moment Marguerite n'avait consenti à se reconnaître responsable de son malheur. Pas un moment elle n'avait admis que lorsqu'on était petite fille de Saint-Louis, fille du duc de Bourgogne, reine de Navarre et future reine de France, se faire la maîtresse d'un écuyer constituait un jeu périlleux, répréhensible, qui pouvait coûter l'honneur et la liberté. Elle s'était fait justice d'avoir été mariée à un homme qu'elle n'aimait point. Elle ne se reprochait pas d'avoir joué. Elle haïssait ses adversaires. Et c'était uniquement contre eux qu'elle tournait ses inutiles colères, contre sa belle-sœur d'Angleterre qui l'avait dénoncée, contre sa famille de Bourgogne qui ne l'avait point défendue, contre le royaume et ses lois, contre l'Église et ses commandements. Et quand elle rêvait de la liberté, elle rêvait aussitôt de vengeance. Blanche lui passa le bras autour du cou. « Je suis sûre, mamie, que nos malheurs sont finis. » « Ils le seront, répondit Marguerite, à condition que nous agissions habilement et promptement. » Elle avait un vague projet en tête, qui lui était venu pendant la messe, et dont elle ne savait pas où il l'amènerait. Elle voulait de toute manière mettre la situation à profit. « Tu me laisseras parler seul à ce grand éhanché de Berzumé, dont j'aimerais mieux voir la tête au bout d'une pique sur ses épaules, » ajouta-t-elle. Un moment après, les deux femmes entendirent qu'on déverrouillait la porte. Elles recoiffèrent leurs béguins. Blanche alla se placer dans l'ébrasement de l'étroite fenêtre. Marguerite s'assit sur un escabeau, seul siège dont elle disposa. Le capitaine de forteresse entra. « Je viens, madame, ainsi que vous m'en avez prié, » dit-il. Marguerite prit son temps, le regarda de la tête aux pieds et dit « Messire Berzumé, savez-vous qui désormais vous gardez ?» Berzumé détourna les yeux comme s'il cherchait un objet autour de lui. « Je le sais, madame, je le sais, » répondit-il. Et ne cesse d'y penser depuis ce matin que le chevaucheur qui allait vers Cricbeuf et Rouen m'a fait éveiller. Voilà 7 mois que je suis recluse ici. Je n'ai point de linge, point de meubles, point de draps. Je mange la même bouillie que vos archers. Je n'ai qu'une heure de feu par jour.
J'ai obéi aux ordres de messire de Nogaret, madame, répondit Berzumé.
Guillaume de Nogaret est mort.
Il m'avait envoyé les instructions du roi.
Le roi Philippe est mort. Devinant où Marguerite voulait en venir, Berzumé répliqua « Mais Monseigneur de Marigny est toujours vivant, madame, qui commande la justice et les prisons, comme il commande toutes choses au royaume, et de qui je dépends pour tout. Le chevaucheur de ce matin ne vous a donc point porté de nouveaux ordres ?
Aucun, madame.
Vous n'allez point tarder à en recevoir ?
Je les attends, madame. »
Robert Berzumé paraissait plus âgé que ses 35 ans. Il offrait cette mine soucieuse, bougonne, que prennent volontiers les soldats de carrière et qui, à force d'être affectés, leur devient naturelle. Pour le service ordinaire dans la forteresse, il portait un bonnet de peau de loup et une vieille cotte de maille un peu lâche, noircie par la graisse, et qui blousait autour du ceinturon. Ses sourcils se rejoignaient au-dessus du nez. Marguerite, au début de sa captivité, s'était presque sans détour offerte à lui, dans l'espoir de s'en faire un allié. Il avait esquivé devant chaque avance, moins par vertu que par prudence, mais il conservait rancune à Marguerite pour le mauvais rôle qu'elle lui avait fait tenir. Aujourd'hui, il se demandait si cette sage conduite lui vaudrait personnellement faveur ou représailles.
« Cela ne m'a point été plaisir, madame, reprit-il, que d'avoir infligé tel traitement à des femmes, et de si haut rang que vous l'êtes. »«
Je l'imagine, messire, je l'imagine, répondit Marguerite, car on sent en vous le chevalier, et les choses qu'on vous a commandées ont dû fort vous répugner. » Le capitaine de forteresse sortait du commun peuple. Aussi n'entendit-il pas sans quelque plaisir ce mot de chevalier. « Seulement, messire, poursuivit la prisonnière, je suis lasse de mâcher du bois pour me garder les dents blanches et de moindre les mains du lard de ma soupe pour que ma peau n'éclate pas de froid.
Je comprends, madame, je comprends.
Je vous saurai gré de me faire désormais tenir à l'abri du gel, de la vermine et de la faim. » Berzumé baissa la tête.
« Je n'ai point d'ordre, madame. » Je ne suis ici que par la haine que me vouait le roi Philippe. Et son trépas va tout changer, reprit Marguerite avec une belle assurance. Allez-vous attendre qu'on vous commande de m'ouvrir les portes pour témoigner quelque égard à la reine de France? Ne croyez-vous pas que ce serait agir assez sottement contre votre fortune?
Les militaires sont souvent de naturel indécis, ce qui les prédispose à l'obéissance et leur fait perdre beaucoup de batailles. Berzumet, s'il avait pour ses subordonnés l'injure prompte et le poing leste, ne possédait pas de grandes dispositions à l'initiative devant les situations imprévues. Entre le ressentiment d'une femme qui, selon ce qu'elle affirmait, serait toute puissante demain, et la colère de Monseigneur de Marigny qui était tout puissant aujourd'hui, quel risque devait-il choisir ?
« Je voudrais aussi que Madame Blanche et moi, dit Marguerite, puissions sortir une heure ou deux de cette enceinte, sous votre conduite, si vous le croyez bon, et voir autre chose que les créneaux de ces murs et les pics de vos archers. »
C'était aller trop vite et trop loin. Berzumet éventa la ruse. Ses prisonniers cherchaient à communiquer avec l'extérieur, et peut-être même à lui filer entre les doigts, donc elle n'était pas tellement assurée de leur retour en cour.
« Puisque vous êtes reine, madame, vous comprendrez que je sois fidèle au service du royaume, dit-il, et que je ne puisse enfreindre les règlements qui m'ont été donnés. »
Il sortit là-dessus pour éviter d'avoir à discuter davantage.
« C'est un chien !» s'écria Marguerite lorsqu'il eut disparu. « Un chien de garde qui n'est bon qu'à aboyer et à mordre !»
Elle avait fait une fausse manœuvre et rageait en parcourant la chambre ronde. Berzumet, de son côté, n'était guère plus satisfait.
« Il faut s'attendre à tout quand on est le geôlier d'une reine, se disait-il.
Or, s'attendre à tout, pour un soldat de métier, c'est d'abord s'attendre à une inspection. »